Bonjour à tous, l'économie sur France Culture, ça commence tout de suite et c'est jusqu'à 15h. Un indice que les économistes surveillent comme le lait sur le feu, c'est l'inflation. Trop élevée, elle freine la consommation des ménages. Trop faible, elle empêche les entreprises d'être rentables. Le parfait dosage se situerait, dit-on, autour de 2%. Un objectif hors de portée à l'heure actuelle, malgré les sommes colossales injectées dans l'économie. Non seulement les prix ne montent pas, mais ils continuent à baisser. Alors l'inflation a-t-elle disparu pour de bon et faut-il espérer son retour? C'est la question très politique qui nous intéresse dans l'heure qui vient. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler du possible retour de l'inflation, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois économistes. Gézabel Coupé-Souberan, maîtresse de conférences à Paris 1 et conseillère scientifique à l'Institut Veblen, Xavier Thimbaud, directeur principal à l'OFCE, et Olivier Marty, enseignant à Sciences Po. Une émission à écouter tout de suite en direct ou plus tard sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Cela fait maintenant 5 mois que l'inflation est négative dans la zone euro. L'indice des prix est passé en dessous de zéro au mois d'août 2020 pour la première fois depuis 4 ans. Est-ce que c'est une surprise pour les économistes, Gézabel Coupé-Souberan?
Non, ce n'est pas une surprise parce que en situation de crise comme celle que nous traversons, la pression déflationniste est très forte. Donc il est normal en fait de constater cette évolution. Après, ce qu'on peut tout de même ajouter, c'est que l'inflation est basse depuis longtemps en réalité. C'est-à-dire que même avant la crise sanitaire, en ce qui concerne notamment la Banque Centrale Européenne, elle avait bien du mal à atteindre sa cible d'une inflation proche de 2%. Donc ça fait un petit moment que les ressorts déflationnistes sont présents.
Alors Xavier Thimbaud, cette inflation négative qu'on constate aujourd'hui, effectivement, renforce une tendance préexistante à la baisse des prix?
Oui, elle vient effectivement se rajouter à une tendance préexistante qui remonte en fait... À la crise de 2008 et à des mécanismes qui, au fond, sont relativement simples, hein, qui sont que quand une économie entre en récession, que le chômage augmente, ça exerce une pression à la baisse sur les salaires et puis ça crée des surcapacités et ces deux phénomènes combinés poussent les prix à la baisse et induisent une spirale ensuite inflationniste.
Oui.
Non,
allez-y, Xavier Thimbaud.
Juste un petit point quand même. Alors c'est toujours un peu ennuyeux parce que c'est des questions un peu techniques, mais dans la crise très particulière du Covid qu'on connaît, il y a un élément qui vient se rajouter, qui est qu'il y a une chute brutale d'activité dans certains secteurs. Donc, par exemple, les gens ont arrêté de se transporter et donc ils ont arrêté de consommer de l'essence. Et ça, sur l'ensemble de la planète, ou presque, et ça a provoqué une baisse de la demande de combustible fossile, de pétrole, et donc une chute du prix du pétrole. Alors, dans les indices de prix qu'on construit, on comptabilise ça comme une baisse de l'inflation. Mais on est dans une situation très particulière parce que c'est un moment où il y a une baisse de l'inflation, mais aussi une baisse de la consommation. Et ce qui fait que, d'une certaine façon, cette baisse de l'inflation, baisse des prix, ne se traduit pas par un gain de pouvoir d'achat, parce qu'en fait, les gens arrêtent de consommer ces produits et donc ne bénéficient pas de la baisse des prix. Et de l'autre côté, en fait, ils peuvent reporter en partie leur consommation sur d'autres produits dont les prix vont augmenter, comme les produits alimentaires, par exemple. Et comme ces produits alimentaires sont eux-mêmes comptabilisés avec une part qui correspond à avant la crise, en fait, un petit peu de la même façon, on va sous-estimer la perte de pouvoir d'achat qui va être liée à la hausse de ces prix dans les produits sur lesquels on se reporte.
Ce que vous nous dites, Xavier Thimbaud, c'est que finalement l'indice le plus juste est celui de l'inflation sous-jacente qui exclut justement ces prix de l'énergie et de l'alimentation qui sont très volatiles.
Alors, il est effectivement un peu plus juste, mais malheureusement cet indice n'intègre pas par exemple la question des billets d'avion. Les billets d'avion coûtent beaucoup moins cher depuis 6 mois qu'ils ne le coûtaient avant. Et la raison, c'est que beaucoup moins de gens prennent l'avion. Donc du coup, vous voyez, cette baisse des prix, elle est comptabilisée dans l'indice des prix, y compris quand on prend le sous-jacent, puisqu'il y a les billets d'avion dans l'indice des prix sous-jacents, mais par contre, elle correspond pas à un gain de pouvoir d'achat. Donc, il faut manier ces chiffres avec prudence, je dirais, parce que rien ne nous dit que quand on va revenir à la normale, alors la normale en sens, il y aura plus de restrictions, par exemple, sur les transports ou sur le transport aérien, on voit pas brutalement les chiffres de l'inflation réaugmenter, parce que en fait la consommation va revenir dans ces secteurs et que les producteurs seront plus obligés de casser les prix face à un effondrement, parce que on fait face à des effondrements de leur production.
Olivier Marty, sur cet épisode de déflation que l'on connaît actuel et qui nous rappelle d'autres épisodes de déflation, on se rappelle que c'était en 2009, il y avait eu un épisode comme ça pendant 5 mois, un autre en 2014, et puis le dernier, c'était en 2016, Olivier Marty.
Oui, je crois que l'inflation négative est d'abord le symptôme d'une crise particulièrement grave, qui est celle que nous traversons. C'est aussi une très mauvaise nouvelle pour les anticipations des agents économiques en termes d'investissement, en termes de consommation. C'est aussi une mauvaise nouvelle parce que ça va renchérir les valeurs nominales et notamment la dette publique. Je voudrais simplement ajouter en contrepoint à ce qui a déjà été dit et que je partage, qu'en réalité la tendance désinflationniste est sans doute plus longue, plus ancienne que celle qu'on a observé après la crise de 2008. Je crois que depuis les années 80, 90, les années 2000, on avait plusieurs forces à l'œuvre qui comprimaient la hausse des prix, à commencer par la pression de la mondialisation, c'est-à-dire l'arrivée sur nos marchés de biens produits par des pays émergents ou en développement à bas salaire et donc à bas prix. Il y avait aussi la faiblesse des gains de productivité, il y avait le fait que les salaires étaient assez bas et il y avait le fait aussi que les banques centrales, étant devenues indépendantes, avaient réussi à mieux maîtriser l'inflation que par le passé lorsqu'elles étaient sujettes au pouvoir politique.
Alors je disais en introduction, on est loin de la cible d'inflation de la Banque Centrale Européenne, cible qui se situe juste au-dessous de 2%. Je vous propose d'écouter justement la présidente de la BCE, Christine Lagarde, lors d'un discours à Francfort, c'était le 28 septembre dernier.
Overall, the euro area economy is expected to be severely affected.
Dans l'ensemble, l'économie de la zone euro devrait être sévèrement affectée par les retombées de l'augmentation rapide des infections et du rétablissement des mesures de confinement, ce qui représente un risque net à la baisse pour les perspectives économiques à court terme. La faiblesse de l'activité économique depuis le début de la pandémie se reflète également dans l'évolution de l'inflation. Les faibles prix de l'énergie et la réduction temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne freinent l'inflation. Mais la faiblesse de la demande, notamment dans les secteurs liés au tourisme et au voyage, et l'importante faiblesse des marchés du travail et des produits accentuent la pression à la baisse. Dans ce contexte, nous nous attendons à ce que l'inflation globale reste négative jusqu'au début de 2021. Le rôle clé de la politique monétaire dans cette situation est de préserver des conditions de financement favorables pour tous les secteurs et toutes les juridictions de la zone euro. En conséquence, notre rôle est crucial pour soutenir l'activité économique et préserver la stabilité des prix à moyen terme.
Isabelle Coupé-Soubéran, est-ce qu'il faut voir dans cette inflation négative, dont on a vu qu'elle était plus ancienne que celle que l'on constate aujourd'hui, le signe d'une certaine impuissance de la BCE, le fait que les politiques non conventionnelles menées depuis 2008 n'ont finalement pas produit leur effet, c'est-à-dire rétablir l'inflation?
Ça fait en effet un certain temps que les grandes banques centrales, et en particulier la BCE, ont du mal en fait à atteindre cette cible d'inflation qu'ils se fixent au niveau de 2%. Et dans la situation actuelle, on peut se dire qu'il sera extraordinairement compliqué pour la BCE d'arriver à regagner cette cible avec la politique monétaire qu'elle mène. Parce que, alors, comme l'a dit Christine Lagarde là dans l'extrait que vous avez fait écouter, ils cherchent à préserver de bonnes conditions de financement dans l'économie. Comment le font-ils? Bah, essentiellement, en fait, par des rachats de titres de dette, et notamment des rachats de titres de dette publique sur les marchés secondaires, pour essayer d'exercer une pression à la baisse sur les taux d'intérêt de long terme. D'accord. Mais ce que l'on constate, et on l'a constaté avant la crise sanitaire, parce que ces rachats d'actifs, ils ne datent pas de la crise sanitaire. Donc, ils ont été utilisés également dans la zone euro à partir de 2015 pour continuer de gérer les conséquences de la crise financière. Et certes, ça exerce une pression à la baisse sur les taux longs, mais pour autant, eh bien, ça ne permet pas de faire redémarrer correctement l'investissement. Et donc, ça ne permet pas, si vous voulez, à la fois de retrouver de la stabilité économique, et ça ne permet pas non plus de retrouver de la stabilité monétaire.
Si l'inflation ne repart pas malgré les politiques menées par les banques centrales, Xavier Thimbault, il faut chercher ailleurs les raisons de cette absence d'inflation. Alors il y a le fait qu'il n'y a pas assez de demandes, qu'il y a une certaine faiblesse des salaires, mais c'est peut-être intéressant aussi d'aller voir du côté de l'euro, le fait que l'euro a progressé de plus de 11% face au dollar depuis le mois de mai. En quoi est-ce que ça a un impact sur les prix en Europe, Xavier Thimbault ?
Alors ça a un impact en fait assez mécanique, je dirais, c'est-à-dire que on importe un certain nombre de produits et quand l'euro s'apprécie, le prix payé en euros de ces produits, lui, diminue et ça vient contribuer à un indice d'inflation qui sera plus bas. Alors après il y a un autre mécanisme qui est moins mécanique et qui est que l'appréciation de l'euro a un effet sur le commerce extérieur, ça rend la zone euro moins compétitive. Et cet effet de moindre compétitivité diminue l'activité et vient peser sur à la fois le marché du travail avec du chômage et les capacités des entreprises. Et donc ça peut avoir aussi un effet déflationniste plus persistant, plus long que l'effet direct. Donc
comment est-ce qu'on explique cette hausse de la monnaie européenne, Xavier Thimbault ?
Alors, la question des changes est toujours un peu compliquée, mais un des éléments est que finalement l'euro est presque un peu victime de son succès en la matière et apparaît comme une zone de stabilité. On vit dans un monde dans lequel il y a énormément d'épargne, c'est lié à la fois à des mécanismes comme celui du vieillissement ou l'augmentation des inégalités globalement. Et dans ce monde où il y a énormément d'épargne, cette épargne peut se déplacer, elle va se déplacer là où les placements apparaissent les plus sûrs. Et de ce point de vue-là...
C'est plus l'Europe années... aujourd'hui que les États-Unis.
Oui, c'est ça. Et les quatre années Trump, et en particulier leur entrée dans la crise sanitaire, ont beaucoup effrayé les marchés financiers. Il y a une contrepartie de tout ça, c'est aussi la Chine qui accumule des excédents et qui cherche à diversifier aussi ses positions en étant moins porteur de titres en dollars et donc plus d'autres monnaies. Et tout ça, en fait, contribue à plutôt une appréciation de l'euro, donc qui est à la fois victime de son succès et qui en même temps a un de ses membres, l'Allemagne, qui a une attitude extrêmement mercantiliste et qui semble privilégier en fait l'accumulation d'excédents extérieurs. Ce qui fait que la zone euro s'installe dans une position où elle accumule beaucoup d'excédents extérieurs, elle épargne beaucoup, et épargnant beaucoup, elle accentue ce phénomène d'appréciation de la monnaie, et elle contribue aussi à ce phénomène de déflation. Donc ça fait partie de ces mécanismes sur le long terme.
Mais est-ce que l'Allemagne n'a pas intérêt à avoir un euro plus faible pour ses exportations ? On comprend qu'elle a intérêt pour son épargne, mais pas pour ses exportations, Xavier Thimbault.
Alors, paradoxalement, oui, bien sûr, elle est sensible à l'euro dans ses exportations, mais en fait, l'Allemagne est un peu moins sensible que d'autres pays. Elle a une position de faiseur de prix sur un certain nombre de marchés où elle est en position compétitive très avantageuse. Et puis de l'autre côté, il y a une contrepartie en fait à cette dimension-là, qui est que accumuler de l'excédent commercial, c'est aussi épargner et augmenter l'actif, la position nette du pays. Mais derrière la position nette du pays, il y a une espèce d'obsession allemande pour le futur et l'impact du vieillissement et le fait qu'il faut accumuler pour préparer ce vieillissement. Donc ça se traduit par exemple par une volonté de diminuer sa dette, ce que l'Allemagne a fait avec beaucoup de succès, mais qui a vraiment comme contrepartie l'accumulation d'excédents extérieurs de l'autre côté.
Isabelle Coupé-Séberon, je vous donne la parole dans un instant, mais Olivier Marty d'abord sur cette question de l'euro fort et sur les risques éventuellement que cela suppose.
Oui, c'est vrai que paradoxalement, aujourd'hui, l'euro est relativement fort. Je pense que c'est, comme l'a très bien dit Xavier Timbaud, la résultante d'une sorte de fuite vers la qualité des marchés financiers. La zone euro étant considérée comme étant relativement sûre et offrant des rendements corrects, surtout lorsqu'on les compare à la sécurité.
Alors, nous avons été, semble-t-il, coupés avec Olivier et Marty, Gisabelle Coupé-Soubéran. Je voudrais vous entendre là-dessus et aussi sur ce que peut faire la BCE, puisque les autorités monétaires, finalement, ne peuvent pas faire grand-chose face à cette hausse, puisque c'est difficile de baisser encore davantage les taux d'intérêt.
Oui, alors, déjà, juste un petit bémol par rapport à ce qui a été dit est tout à fait juste sur l'Allemagne parcimonieuse. Cela étant, avec la crise sanitaire, il y a peut-être quand même un début de prise de conscience en Allemagne qui se traduit par un plan de relance allemand beaucoup plus orienté vers la demande que ne l'est le plan de relance français. Il y a peut-être ce début de prise de conscience et c'est plutôt pas mal. Après, alors en ce qui concerne votre question de savoir si cette appréciation de l'euro, qui est peut-être en fait simplement le contrepoids de la baisse du dollar, et ce que peut faire la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne n'a pas d'objectif de change, d'accord ? Il faut le rappeler. En revanche, la Banque Centrale sait pertinemment que le taux de change constitue un canal de transmission de sa politique monétaire et qu'en effet, si l'euro continue de s'apprécier ainsi, eh bien, du fait de l'impact sur le prix des importations, ce sera encore plus difficile, en fait, de regagner sa cible d'inflation. Donc, c'est une difficulté supplémentaire pour la Banque centrale. Ça l'amène pas pour autant à vouloir changer d'instrument. Hein, pour l'instant, la stratégie de politique monétaire de la BCE reste à plus grande échelle celle qu'elle avait pour gérer la crise financière, à savoir des refinancements pour les banques à des conditions ultra accommodantes et des rachats d'actifs massifs qui ne parviendront pas à faire remonter l'inflation.
Alors on a réussi à rétablir la connexion avec Olivier Marty. Vous étiez en train de nous parler de l'impact de cet euro fort et on a poursuivi la discussion avec Gisabelle Coupé-Soubéran sur ce que peut faire la Banque Centrale Européenne éventuellement pour empêcher cette appréciation de l'euro qui peut, sous certains aspects, peut apparaître inquiétante. Olivier Marty.
Oui, je voulais simplement rajouter que la période actuelle d'un change relativement fort et de ses effets sur l'inflation contraste avec ce qu'on a eu à la suite du lancement du quantitative easing en 2015 où on avait observé une baisse de l'euro et une remontée légère des prix qui semblait indiquer que cette politique monétaire non conventionnelle était à peu près efficace. Alors aujourd'hui, que peut faire la Banque centrale pour tenter de baisser le change, si c'est bien ça votre question? Mais je crois qu'elle va d'abord espérer que l'effet de sa politique monétaire sur le change va être positif, qu'il va y avoir une baisse du taux de change de l'euro induit par l'augmentation très nette des liquidités.
Alors, vous l'avez dit, Gisabelle Coupé-Soubéran, le taux de change ne fait pas partie du mandat de la BCE. En revanche, la stabilité des prix, oui. Pourtant, la BCE pourrait laisser filer l'inflation. La Fed, la Banque centrale américaine, elle a déjà sauté le pas. Écoutez son président Jérôme Powell le 27 août 2020 lors du sommet virtuel de Jackson Hole.
Nous avons effectué de profonds changements du côté de notre objectif de stabilité des prix. Notre cible à long terme reste un taux d'inflation de 2%. Notre déclaration souligne que nos politiques seront les plus efficaces si l'inflation à long terme reste fixée à 2%. Néanmoins, si l'inflation est en deçà de ce taux en période de récession et ne dépasse jamais les 2% en période de croissance, le taux moyen sera inférieur à 2%. Les ménages et les entreprises s'attendront à ce taux inférieur, ce qui veut dire que le niveau d'inflation estimé sera en dessous de notre cible de 2%, ce qui tirera l'inflation réelle vers le bas. Pour éviter ce résultat, notre nouvelle déclaration indique que nous visons un taux de 2% sur le temps long. Ainsi, après des périodes d'inflation inférieures à 2%, La politique monétaire visera probablement un taux légèrement au-dessus de 2% pendant quelques temps.
Xavier Thimbault, est-ce qu'il faut autoriser dans la zone euro un dépassement de cette fameuse cible à 2%? Ça a été évoqué par Christine Lagarde dans son discours du 30 septembre.
C'est une question importante parce que, alors, c'est peut-être pas le phénomène principal qui conduit à alimenter les anticipations de déflation, mais le mécanisme qui est évoqué, qui est celui de, il y a des récessions, et donc si on ne tient pas compte du fait que l'inflation est plus basse pendant les récessions, en moyenne, l'inflation va être plus basse que la cible, et ça finit par induire surtout l'idée que, quand on anticipe l'inflation à long terme, on doit tenir compte de ces phénomènes-là, et qu'en fait, elle peut être inférieure à 2%, mais sans être ancrée sur quoi que ce soit. Donc on peut anticiper qu'elle va être à 1,5 ou à 1%, et il y a un aspect cumulatif dans ces anticipations qui font que, même si on est sur des chiffres qui paraissent assez proches, petit à petit, ces anticipations d'inflation s'auto-déprécient, s'auto-réalisent dans cette diminution progressive. Donc affirmer que c'est 2% en moyenne sur le temps long, que l'on vise, qu'après une période de récession qui est longue, parce que là aussi, une des leçons depuis 2008, c'est que les phases de récession sont très longues, elles ne durent pas quelques trimestres, elles durent plutôt une décennie. Eh bien, après une phase de récession, il faut considérer que la Banque centrale va avoir comme objectif à moyen terme ou à court terme, à l'horizon de quelques trimestres, quelque chose qui sera au-dessus de la cible de long terme de 2%, et que, effectivement, ça peut aider à réancrer les anticipations sur cette cible de 2%.
Donc laisser filer l'inflation, Jezabel Coupé-Soubéran, pour compenser la période de déflation actuelle?
Laisser filer l'inflation, ça me semble, si vous voulez... Ça me semble compliqué en fait dans la position de la Banque centrale, au sens où ce type d'annonce, alors qui a été faite par la Fed, c'est vraiment une annonce qui vise, comme le disait Jean-Pierre à l'instant, à ancrer les anticipations. D'accord. Et donc, il s'agit en quelque sorte de rassurer un peu les acteurs en leur disant bon, vous constatez que l'inflation est très faible maintenant. Nous sommes dans une période de récession. Tout cela est normal, mais ne vous inquiétez pas. Si ensuite ça s'accélère, eh bien, vous pourrez justement réancrer vos anticipations sur un niveau supérieur d'inflation que nous tolérerons. Donc tout ça, c'est pour jouer sur les anticipations. Mais au fond, on le disait tout à l'heure, il y a des ressorts déflationnistes qui sont présents dans l'économie mondiale depuis longtemps, du fait de la mondialisation, du fait de la financiarisation des économies. Et même si les banques centrales venaient à annoncer une cible d'inflation plus élevée au sortir de la crise sanitaire, il est fort probable, en fait, qu'elles ne parviendront pas à atteindre cette cible plus élevée.
Et puis, ce qu'il faut dire aussi, peut-être, Olivier Marty, c'est que ces 2%, c'est une cible assez arbitraire, que c'est un choix qui n'est pas motivé par une série de calculs. Expliquez-nous peut-être comment on en est arrivé à ces 2%.
Alors, le niveau de 2%, qui est en fait une cible de 2% à moyen terme, et en réalité, l'idée que la hausse des prix va converger vers 2%, mais rester inférieure à 2%, c'est bien ça qui est inscrit dans le mandat de la BCE, et bien c'est le résultat d'un arbitrage entre les inconvénients de l'inflation et les avantages de l'inflation. C'était le consensus dominant en Europe à l'époque. Je ne sais pas si vous voulez que je développe ces aspects théoriques. Ce qui me semble intéressant, à part cela, c'est de constater que effectivement la Banque Centrale Européenne a un petit problème de crédibilité sur l'atteinte de son objectif. Globalement, je crois qu'on peut distinguer deux périodes. Il y a eu la première période de la fin des années 90, au moment où la Banque Centrale Européenne a été créée, jusqu'à la crise financière de 2007-2008, où l'Institut monétaire européen a réussi en moyenne à avoir une inflation de 2%, ce qui lui a permis d'ancrer sa crédibilité dans le milieu financier, le milieu politique global et singulièrement européen. Et effectivement, à la suite de la crise financière, puis avec la crise de la zone euro, et à plus forte raison aujourd'hui, on a observé que l'inflation a nettement baissé, qu'on a eu des périodes de déflation, donc entre 2012 et 2014, et puis encore aujourd'hui. Donc en réalité, la BCE a envie vraiment d'avoir plus d'inflation pour mieux atteindre son objectif, pour réancrer sa crédibilité, et puis naturellement aussi, ce que ne dit pas forcément Christine Lagarde, c'est qu'elle a envie d'avoir de l'inflation pour réduire la valeur de la dette.
Alors ça, c'est aussi un aspect important sur lequel on pourra revenir. Xavier Thimbault, Christine Lagarde a besoin d'inflation au point d'ouvrir la porte à une modification du calcul de l'inflation qui serait, selon elle, trop éloignée de l'économie réelle, notamment parce qu'elle n'intègre pas les prix des logements occupés par leurs propriétaires, par exemple, ce qui suscite un certain nombre de débats. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il faut aussi rappeler voilà, cette idée selon laquelle l'inflation est un indice très politique.
Alors, c'est effectivement un indice très politique, même s'il est un petit peu moins politique qu'il ne l'a pu être pendant les périodes d'inflation élevée, où un certain nombre de contrats, et en particulier de contrats de travail, étaient indexés sur l'inflation. Donc là, il y avait vraiment un enjeu très fort dans le calcul de l'inflation. Mais en fait, la question du calcul de l'inflation, de l'intégration du prix de certains actifs, comme le logement, pour essayer de montrer qu'en fait, il y a moins de déflation qu'on ne croit, ou il y a plus d'inflation qu'on ne croit, rejoint un peu la question de la crédibilité de la Banque centrale. La Banque centrale annonce depuis maintenant 10 ans que sa cible d'inflation est de 2%, et ça fait 10 ans, en gros, qu'elle échoue à atteindre sa cible. Alors, il y a des circonstances qui l'expliquent, mais la répétition de circonstances chaque année qui expliquent qu'on n'atteint pas sa cible finit par poser un problème de crédibilité et d'instiller le doute qu'en fait, la Banque centrale dispose véritablement des leviers pour arriver à contrôler l'inflation. Changer le thermomètre, la mesure, va conduire au même problème de crédibilité. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est quand même voilà, c'est très politique dans ce sens-là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le nœud de la crédibilité de la Banque centrale.
Certains vont croire qu'on change simplement l'indice pour avoir un résultat qui fait plaisir entre guillemets à la Banque centrale européenne.
Oui, enfin qui à la fois lui fait plaisir, mais qui aussi tendrait à montrer qu'elle est capable d'atteindre ses objectifs. Mais vous voyez, modifier les objectifs pour les atteindre, c'est pas tout à fait la même chose que de faire ce qu'il faut et avec un effet sur la réalité quand on s'est fixé un objectif et qu'on ne le change pas. Donc voilà. Après, peut-être que l'objectif n'est pas le bon, peut-être que effectivement, et ça c'est un débat qui est aussi très très habituel. Peut-être que la mesure de l'inflation n'est pas la bonne. Il y a des tas de raisons effectivement de justifier ça, mais modifier la mesure au moment où on a du mal à atteindre l'objectif, c'est assez compliqué en fait à faire passer comme message.
Isabelle Coupé-Souberan.
Oui, on peut en effet s'interroger quand même sur le thermomètre et constater que dans l'indice de prix qui est suivi par la Banque centrale, il manque des choses. Il manque les prix de l'immobilier, les prix des actifs financiers. Après, même si on changeait ce thermomètre et si on intégrait ces prix-là sur lesquels en fait la Banque centrale aujourd'hui par ses opérations a beaucoup plus d'impact, c'est-à-dire qu'elle fait augmenter les prix de l'immobilier et les prix des actifs financiers par ces rachats d'actifs. Cela étant, est-ce qu'il serait facile de définir un objectif pour la moyenne de la zone? Ça n'aurait aucun sens au fond, parce que les cycles de prix immobiliers, les cycles financiers dans la zone euro sont assez différents d'un pays à l'autre. Donc ça reposerait le problème de cette politique monétaire unique qui n'a pas toujours été bien combiné à d'autres instruments de politique économique calibrés au niveau national. Et puis, j'ajouterais que c'est peut-être pas le thermomètre qu'il faut changer, c'est peut-être davantage le mandat de la Banque Centrale Européenne qu'il faut interroger. Ce mandat a été défini à une époque où on imaginait que l'inflation, c'était le mal à combattre. Aujourd'hui, le mal à combattre, c'est davantage la déflation. Alors vous me direz, au fond, c'est toujours un objectif de stabilité monétaire, mais ça impliquerait quand même de le réinterpréter d'une manière très différente.
Ce que l'on comprend, c'est que de part et d'autre de l'Atlantique, les taux d'intérêt devraient rester bas de façon durable pour tenter de relancer l'inflation. Et alors, Olivier Marty, selon Charles Evans, qui est président de la Réserve fédérale de Chicago, des taux bas sur la durée risque de provoquer des instabilités sur les marchés. Est-ce qu'il faut d'autant plus de régulation, de supervision en période de taux bas, selon vous?
Je pense qu'effectivement, il y a un double problème avec l'évolution de la politique monétaire contemporaine en zone euro et ailleurs au sein des pays avancés. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes politiques. Les problèmes économiques, c'est, comme on l'a déjà abordé, le fait que, en réalité, en ce qui concerne particulièrement la Banque Centrale Européenne, l'atteinte des objectifs n'est pas si évidente. Même si, à contrario, le contrefactuel aurait indiqué que la situation aurait pu être bien pire. Parmi les problèmes économiques, il y a aussi toute l'instabilité financière qui est provoquée par une politique monétaire extrêmement accommodante, à commencer par, effectivement, la montée de l'endettement global, à la fois public et privé, l'accroissement de la prise de risques financiers, la création de bulles sur différents actifs, les marchés de l'immobilier ou encore certaines valeurs boursières, en particulier dans les secteurs technologiques. Donc tout ceci pose effectivement la question de la supervision dite macro-prudentielle, c'est-à-dire le contrôle des grands risques financiers. Il y a un petit peu de progrès qui a été fait en Europe sur la période récente avec la création du Conseil européen du risque systémique, qui est une institution qui fonctionne à peu près bien, encore que son cénacle soit très élargi et qu'elle ait en réalité assez peu de pouvoir pour stopper l'accroissement des risques. Mais je crois qu'il y a aussi un problème au niveau des autorités de supervision nationale qui conservent un pouvoir trop discrétionnaire.
Donc des progrès, mais des progrès insuffisants, Jezabel Coupé-Souberan?
Oui, des progrès clairement insuffisants. On pouvait attendre après la crise financière qu'il y ait vraiment un grand moment de réforme qui permette de mettre la stabilité financière au cœur de la politique économique et au cœur de la politique des banques centrales. Alors, il y a eu des réformes, bien sûr, mais ces réformes, elles ont surtout été de nature micro-prudentielle. On a renforcé un peu les coussins d'absorption de pertes au sein des banques, mais il n'y a pas eu un effort suffisamment macro-prudentiel. Le mot a été prononcé. La politique macro-prudentielle, c'est vraiment une politique qui est axée sur la prévention du risque global, du risque systémique, où l'on essaie en fait de réguler le cycle financier, où l'on essaie de mettre les grands établissements systémique, justement les grandes banques qui font peser un risque systémique, on essaie de les mettre en capacité, eh bien de mieux assumer leurs pertes. Ça, on ne l'a pas fait suffisamment. Il y a de tout petits instruments macro-prudentiels qui existent aujourd'hui, mais qui sont en effet à la discrétion des autorités nationales.
Alors la déflation que l'on connaît aujourd'hui, sera-t-elle temporaire? Va-t-elle durer? Et sinon, faut-il redouter une trop forte hausse des prix, un véritable retour de l'inflation? On en parle dans un instant.
To put my kids through school. Way too expensive.
Way Too Expensive, Joey Walker sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, l'inflation reviendra-t-elle un jour? C'est notre sujet aujourd'hui en compagnie d'Olivier Marty, Jézabel Coupé-Soubéran et Xavier Timbaud. Alors à l'heure actuelle, les économistes semblent se partager en deux camps. Ceux qui estiment qu'une inflation forte va revenir et ceux qui pensent qu'elle va rester durablement faible. À court terme, Xavier Timbaud, est-ce qu'on peut dire que tout le monde est relativement d'accord que sur le fait que les prix ne devraient pas beaucoup augmenter dans les prochains mois, et cela malgré la reprise de l'économie?
Oui, on peut le dire assez tranquillement. Alors, il y aura une remontée des prix, par exemple, parce que le prix du pétrole va remonter quand les transports vont reprendre, le transport aérien va reprendre, et que la demande de pétrole remontera. Mais on va aussi avoir un effet sur les salaires de la montée du chômage. On a déjà un effet sur le salaire, en fait, de la période de confinement. Les salaires augmentent beaucoup quand les gens changent d'entreprise. Or, l'année 2020 a été, dans la plupart des pays développés, un moment où les gens ont beaucoup moins changé d'entreprise parce que précisément le confinement l'empêchait et l'incertitude aussi a fait que les entreprises ont beaucoup réduit leur politique de recrutement et en particulier celle où elles cherchent à recruter de façon agressive. Et donc en donnant des augmentations de salaire. Donc ces mécanismes-là, ayant été en quelque sorte suspendus ou confinés eux aussi, il y aura eu peu d'augmentations de salaire en 2020, il y en aura peu en 2021, à la fois pour ce mécanisme, mais aussi par la montée du chômage. Et donc du coup, voilà, on sera dans un moment où on a du chômage, des surcapacités, et là, ce sont pas des circonstances qui sont favorables à une reprise de l'inflation, loin de là.
Et pourtant, The Economist, le magazine recommande aux dirigeants de se préparer au retour de l'inflation en disant que nous sommes dans une période de grande imprévisibilité où tout semble possible et il pourrait y avoir, Jézabel Coupé-Soubéran, éventuellement des effets différés des politiques monétaires non conventionnelles qui provoqueraient soudain une flambée des prix. C'est pas complètement exclu?
Même The Economist peut se tromper. Hein. L'inflation monétaire, le retour de l'inflation monétaire, si nos économies fondamentalement ne changent pas, si la financiarisation reste aussi grande, cette inflation monétaire, je vois pas bien, si vous voulez, comment est-ce qu'elle pourrait se produire. On le voit aujourd'hui, hein, les banques centrales ont beau déverser des tombereaux de liquidités, eh bien... parallèlement, on n'observe pas, si vous voulez, à côté de cette augmentation de la monnaie centrale, on n'observe pas une augmentation proportionnelle de la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. Elle augmente un peu, mais pas autant. Si on prend juste l'exemple de la Banque Centrale Européenne, depuis le début de la crise sanitaire, elle a créé 1700 milliards de monnaie centrale. Les dépôts, c'est-à-dire la monnaie qui circule dans l'économie, la monnaie qui est sur nos comptes en banque, eh bien, elle a augmenté de 800 milliards. D'accord? Donc c'est, vous voyez que c'est deux fois moins. Et cette monnaie, en plus additionnelle, qui circule dans l'économie, à quoi elle sert? Eh bien, certes, elle sert à acheter des biens et des services, mais elle sert surtout aussi à acheter des biens immobiliers, à réaliser des transactions financières, ce qui veut dire que il y en a une grande partie qui est aspirée par la sphère financière. Et c'est pour ça, au fond, que l'inflation n'augmente pas en dépit de cette politique monétaire très accommodante. Donc, inflation monétaire, c'est très peu probable.
Est-ce que vous pensez, Olivier Marty, qu'à plus long terme, il pourrait y avoir un retour de l'inflation, notamment à cause de la transition écologique qui devrait tirer les prix de l'énergie à la hausse?
Alors effectivement, je pense que la transition écologique et en particulier son rythme est l'un des facteurs qu'on peut identifier comme étant inflationniste, qui peut nous laisser espérer que l'inflation remontera au-delà de son niveau antérieur à la crise. Parmi les autres facteurs, je crois qu'il y a l'espoir que effectivement il y ait une hausse des salaires. Ça, je pense que c'est une perspective sur laquelle il ne faut pas trop fonder d'espoir. Il peut y avoir une augmentation des salaires dans certains secteurs comme celui de la santé ou d'autres secteurs qui ont été particulièrement mobilisés au cours de la crise, notamment dans la logistique par exemple. Un autre facteur inflationniste serait la perspective de relocalisation. Là aussi, je crois qu'il faut tempérer cet espoir parce que Les relocalisations coûtent cher et ce ne serait pas forcément rationnel, même si ça ne doit pas nous empêcher de faire un grand exercice de revue de nos vulnérabilités stratégiques au plan commercial. Je crois qu'il y a, au-delà donc du rythme de la transition écologique, aussi deux autres facteurs qu'il faut prendre en compte. D'une part, on a observé au cours de la crise une baisse assez nette de la productivité des entreprises, moins 20% je crois en moyenne dans l'OCDE, et cette baisse de la productivité, elle peut être compensée par une hausse des prix et non pas une hausse des salaires. Moi, je vais vous donner un exemple. Ma coiffeuse, par exemple, a augmenté ses prix parce qu'elle ne peut pas recevoir autant de personnes qu'auparavant. Le prix de la coupe pour un homme est passé de 30 à 31 euros. Mais je crois que ce qui va être déterminant pour savoir si on va avoir de l'inflation à l'avenir, c'est d'observer un éventuel déséquilibre sur le marché des biens et services. Et en réalité, la perspective que l'excès d'épargne accumulé par les entreprises et par les individus puisse effectivement se traduire par plus de consommation et plus d'investissement, et ainsi mettre l'offre sous contrainte et conduire à une augmentation des prix. Et j'ai pas l'impression que
on se dirige vers cela
réellement en vue.
Jezabel Soukoubé-Soubéran, la transition économique comme facteur d'inflation, vous n'avez pas l'air d'accord.
Non, je suis pas tellement d'accord. Ce qui veut dire d'ailleurs que la déflation risque de s'accentuer et que l'inflation ne reviendra probablement pas. Pourquoi je suis pas d'accord sur le lien entre transition écologique et inflation? Parce qu'en fait, la transition écologique devrait consister en investissement massif pour remodeler nos capacités de production et arriver à des modes de production beaucoup plus respectueux des limites planétaires. Or, l'inflation, ça vient de quoi? Fondamentalement, ça vient d'un décalage trop fort entre la capacité d'offre et la demande. Et vous voyez qu'en fait, si tout l'investissement dans la transition écologique porte en grande partie sur le remodelage de nos capacités de production, ce sera pas en fait quelque chose d'inflationniste, d'autant que du côté de la demande, si on réalise la transition écologique, qu'est-ce qu'on va demander? Sur quoi va-t-on mettre l'accent? Eh bien, sur des comportements plus sobres. D'accord, sur une consommation plus sobre. Donc je pense que ce n'est pas ça en fait qui fera revenir l'inflation.
Et en même temps, si l'inflation revenait, ce serait une bonne nouvelle pour la dette, Xavier Thimbault, et en même temps une bonne nouvelle aussi pour les recettes fiscales qui seraient supérieures, plus importantes pour l'État, si la dette est financée à très bas prix, Xavier Thimbault.
Oui, c'est effectivement une perspective qui est souvent regardée par les gestionnaires de la dette publique. En fait, ils se sont endettés avec des taux qui sont bas et avec des taux qui sont fixes pour la maturité des titres de dette qu'ils ont émis. Donc, par exemple, la maturité moyenne de la dette française, c'est 8 ans. Ce qui veut dire que si les taux augmentent, il va falloir 8 ans avant qu'on ait le plein effet sur la charge de la dette. Et par contre, si l'inflation reprend, on aura un effet immédiat sur les recettes fiscales, et donc effectivement dans un premier temps une situation plutôt confortable. Bon, après à moyen terme vient quand même la hausse des taux d'intérêt qui vient peser sur la dette et qui peut contrebalancer cet effet. Mais l'accumulation de cet écart positif pendant la durée de maturité moyenne de la dette, effectivement, est un effet qui est positif pour les finances publiques.
Mais c'est une bonne nouvelle pour l'État, un peu moins pour les investisseurs, Olivier Marty.
Pardon, c'est mal entendu.
La question de l'inflation, si elle réduit la dette, est positive pour l'État, mais elle est moins positive pour les investisseurs.
Oui, effectivement, elle est un petit peu moins positive pour les investisseurs. Ça veut dire que la valeur réelle qui va leur être remboursée va plutôt diminuer. Pour les États, ce serait effectivement une très bonne nouvelle, mais je ne pense pas qu'il faille compter dessus. Et donc,
mais est-ce que la flambée du Bitcoin, par exemple, Olivier Marty, qui a dépassé les 40 000 dollars pour la première fois de son histoire la semaine dernière, n'est pas liée à cette crainte de l'inflation? On se réfugie vers le Bitcoin par crainte d'une possible inflation?
Moi, je ne crois pas tellement ça. Je pense que c'est un exemple du fait que dans un environnement macro-financier où les liquidités sont abondantes, les investisseurs achètent certains actifs, l'immobilier, mais aussi des valeurs de bourse et singulièrement des valeurs technologiques comme le Bitcoin. Donc, à mon sens, c'est d'abord de la spéculation plutôt que autre chose, même si dans votre question il y a celle sous-jacente de effectivement les effets de plus long terme de l'augmentation considérable de la masse monétaire et en fait donc la forme que prendra la fuite devant la monnaie éventuellement au XXIe siècle.
Isabelle Coupé-Soubéran, ça c'est un risque, la fuite devant la monnaie?
Je voudrais juste avant de répondre à ça revenir sur deux points. Je crois qu'effectivement c'est pas sur l'inflation qu'il faut compter pour rembourser la dette. On l'a dit, chacun à sa façon, il est peu probable que l'inflation revienne, et donc c'est pas l'inflation qui va permettre de rembourser les dettes massives qui ont été contractées. Et d'ailleurs ça pose la question de savoir si toutes ces dépenses qui sont absolument indispensables, absolument nécessaires, il faut les financer par de la dette de marché qu'on laisse s'accumuler alors que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc il y a sans doute d'autres solutions à trouver, ou éventuellement annuler une partie de ces dettes là où ça fait pas mal, donc à l'actif de la Banque centrale, ou bien même revenons complètement sur le mandat de la Banque centrale, sur le traité de fonctionnement de l'Union européenne, et revenons sur l'interdiction de la monétisation, autorisons la Banque centrale a financé directement les dépenses publiques dont on a besoin pour gérer la crise sanitaire et puis demain pour prévenir la crise écologique. Quant au Bitcoin, c'est effectivement pas une valeur refuge. Le Bitcoin, c'est plutôt c'est l'engouement spéculatif du moment, c'est la tulipe du moment, si vous voulez, pour faire un petit clin d'œil à la tulipomania, qui était le premier épisode de bulles spéculatives dans l'histoire, et c'est bien davantage, et Olivier l'a dit, la conséquence des politiques monétaires ultra accommodantes, avec des liquidités qui se déversent et qui sont utilisées pour acheter des titres, y compris du Bitcoin. Et la fuite devant la monnaie face à des politiques monétaires très très accommodantes, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, quand la monnaie de la Banque centrale augmente, la masse monétaire augmente un peu, mais moins que proportionnellement, et le lien entre la masse monétaire et l'évolution du niveau général des prix est cassé dans une économie ultra-financiarisée, parce que la monnaie circule surtout dans la sphère financière, elle est aspirée par la sphère financière, donc il n'y a pas à craindre cette inflation de ce côté-là.
On comprend bien que le plus probable, c'est que les pressions inflationnistes d'une part et déflationnistes de l'autre s'équilibrent, et qu'on assiste plutôt à un maintien des prix bas, et si on ajoute à cela une croissance presque inexistante, on arrive à la stagnation séculaire. Alors je voudrais d'abord vous faire entendre la définition qu'en donne Larry Summers, l'ancien secrétaire du Trésor américain, lors d'un discours prononcé le 15 avril 2019.
My topic today is secular stagnation.
Mon sujet d'aujourd'hui est celui de la stagnation séculaire. Comment je la conceptualise et ce que je pense que les futures politiques publiques devraient être. J'ai timidement mis la lumière sur ce sujet il y a quelques années au FMI. Les données que nous avons pu récolter depuis m'ont poussé à être beaucoup plus confiant de mon analyse. Les taux d'intérêt sont bien inférieurs à ce qui aurait été imaginable à l'époque. Les déficits fiscaux sont beaucoup plus importants que ce qui semblait possible à l'époque. On a appuyé sur l'accélérateur, mais le véhicule de l'économie industrielle avance bien plus lentement que ce que nous avions anticipé. Tout comme le taux d'inflation qui est très bas. Quand vous avez beaucoup plus de carburant que vous ne le pensiez, que vous appuyez sur le champignon, mais que la voiture va moins vite que ce que vous aviez imaginé, vous devriez vous poser des questions sur votre véhicule.
Xavier Timbaud, est-ce qu'il y aura une stagnation séculaire selon ce concept repris par Larry Summers dans un discours célèbre devant le FMI en 2013?
C'est une perspective qu'on a devant nous et c'est un scénario qu'on ne peut pas écarter. Il est assez effrayant et il est assez effrayant parce que il va nous installer dans ce monde de taux d'intérêt bas, de banque centrale plutôt impuissante et de politique monétaire qui cherche à faire réatteindre une espèce de normale, de situation normale qui est inaccessible et qui produit en fait son propre poison par des instabilités financières qui viennent alimenter aussi cette stagnation séculaire. Donc c'est une perspective importante parce que justement elle nous amène à reconsidérer le futur, non pas comme la répétition du passé, mais comme ayant des caractéristiques tout à fait spécifiques et auxquelles il faut adapter les institutions et les politiques en profondeur. Voilà. Alors c'est en même temps très compliqué parce que si on s'autorise à reconsidérer le futur et à quitter la répétition du passé, en fait le champ des possibles est très large et il est difficile d'articuler tout ça et d'avoir des certitudes. Or, pour conduire des politiques et pour donner des mandats à des institutions, les certitudes sont quand même tout à fait pratiques. Donc je pense que ce débat sur la stagnation séculaire, il est très important. Mais il indique aussi le désarroi dans lequel on se trouve aujourd'hui et le fait que ces questions de monnaie deviennent un nœud assez aigu de débats qui sont parfois assez rudes parce qu'il y a des enjeux qui sont très forts et il y a des incertitudes qui sont très grandes. Et des incertitudes assez radicales en fait parce qu'elles sont un peu sur quel est au fond le problème et quel est au fond ce qu'on peut faire pour demain, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rejoindre une espèce de situation idéale passée ou est-ce que c'est définitivement impossible ?
Chez Isabelle Coupé-Soubéran.
La stagnation séculaire, c'était la toile de fond, déjà, au fond, avant la crise sanitaire. C'était déjà très présent et ça l'est davantage encore depuis la crise sanitaire. Donc, comme ça a été dit, des taux d'intérêt au plus bas qui vont le rester, un taux d'inflation très très bas, une déflation latente qui va perdurer. Et en dépit du niveau très bas des taux d'intérêt, un investissement qui restera très bas. La conclusion de Larry Summers, c'était il faut changer de voiture. Oui, c'est vrai, il faut changer de voiture et il faut changer vraiment toute la voiture, le tableau de bord, le moteur, tout cela, parce que si on continue finalement avec le même véhicule, avec le même tableau de bord, avec les mêmes instruments, on va accentuer cette situation. Les politiques monétaires actuelles entretiennent cette stagnation séculaire. Elles ne parviendront pas à faire redémarrer l'investissement, faire redémarrer l'activité. Et puis il nous faut refonder tout ça, surtout dans le cadre de la transition écologique. Mais c'est à ça que doivent servir les politiques budgétaires.
Est-ce que la voie de sortie, ce n'est pas l'innovation? C'est ce que disent Philippe Aguillon et Céline Antonin dans une tribune. Ils estiment que les statisticiens mesurent mal les gains de productivité dus à la révolution numérique et qu'elle n'a pas encore produit tous ses effets. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Marty?
Alors effectivement, ça c'est la thèse optimiste qui est en contraste avec les pessimistes comme Larry Summers, Robert Gordon à peu près au même moment ou encore Patrick Artus. Moi j'ai plutôt tendance à croire, mais vous me direz c'est facile puisque c'est le moment présent, qu'effectivement nous sommes dans une période où la croissance tendanciellement s'amenuise et va converger vers zéro. De toutes les causes de la stagnation séculaire, moi ce qui m'interpelle le plus, ce qui m'inquiète, c'est effectivement le fait qu'on développe des économies de services dans lesquelles les gains de productivité sont quand même très faibles par opposition à ce qu'on observait avant quand on avait des économies industrielles. On observe aussi qu'il y a une baisse de la qualification des actifs et on observe également et sans doute surtout que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout ce qui est aujourd'hui le numérique, les applications, les emails, les logiciels, etc., n'ont qu'un faible effet sur la croissance. Alors, effectivement, Philippe Aguillon ou Céline Antonin ou d'autres encore, Barry Ashengreen, certains cabinets de conseil anglo-saxons généralement disent il faut attendre on va à nouveau avoir de la destruction créatrice. Moi, je ne demande qu'à croire ces différentes personnes. Pour le moment, je reste assez circonspect.
Et alors, est-ce qu'il faut s'attendre à un risque de japonisation de la zone euro, en référence à la longue période d'indice des prix négatif et de croissance nulle que le Japon a connue entre 1999 et 2016? Xavier Tarbo, est-ce qu'on peut vraiment comparer la zone euro et le Japon?
Alors, il y a des facteurs qui peuvent être communs. Il y a un élément quand même qui nous distingue beaucoup du Japon de l'après-éclatement de la bulle en 1900, enfin au début des années 90, qui est ce qu'on a appelé la zombification du système financier et bancaire japonais. Donc c'est une perspective qu'on a réussi à éviter à la fois en Europe et aux États-Unis, et d'ailleurs en s'inspirant et en regardant et en analysant ce qui s'était passé au Japon, parce que c'est probablement un facteur de persistance très très long. Une fois que les institutions financières, les banques, sont gorgées de crédits douteux, elles ne financent plus rien du tout, et ça entraîne une stagnation, une chute de l'investissement et une situation de déflation, avec en plus un aspect intergénérationnel et de vieillissement qui a joué très fortement au Japon. Donc on peut espérer que de ce côté-là, d'une certaine façon, les leçons du Japon aient été tirées. Paul Krugman a beaucoup contribué à construire ce diagnostic sur le Japon et à en tirer les conclusions sur les politiques qui ont été conduites ensuite aux États-Unis et par voie de conséquence aussi en Europe en matière financière, et peut-être qu'on a évité cet écueil. Maintenant, on a quand même, enfin, je veux dire, dans tout ça, il y a une façon de voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Quand on regarde la situation des assureurs aujourd'hui, ils ont des portefeuilles d'actifs qui peuvent poser d'énormes problèmes dans le futur, et des obligations de servir des intérêts dans un moment où les taux d'intérêt sont bas de façon persistante. Ils contribuent aussi au financement de l'économie, donc on pourrait avoir évité la zombification des banques et se retrouver avec des zombies qui émergent d'une autre pierre tombale.
Des leçons du Japon ont été tirées, nous dites-vous, Xavier Tarbo. Je voudrais entendre peut-être Jezabel Coupé-Soubéran sur cette dernière dimension en guise de conclusion. Est-ce que vous diriez que cette crise sanitaire et économique oblige aujourd'hui les économistes à changer leur grille d'analyse et leur modèle, notamment sur l'inflation?
Ah oui, je pense que cette crise doit absolument nous appeler à changer radicalement nos grilles d'analyse. Je suis d'accord pour dire que le Japon a été confronté plutôt que nous, finalement, à cette déflation latente. Est-ce que le Japon a véritablement su tirer les leçons de cela? Pas certain, parce que le Japon a été, justement en matière de politique monétaire, le premier pays à expérimenter les politiques monétaires non conventionnelles. Ça ne lui a pas permis, justement, de sortir de cette déflation latente. Donc ça veut dire qu'il faut aller au-delà de ça. On l'a dit, il ne s'agit pas d'être certain, hein, d'affirmer les choses, mais le plus probable, ce que l'on pressent, c'est que il n'y aura plus de croissance. Mais j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il nous faut vraiment passer à autre chose, et que justement cette notion même, cette catégorie même de croissance, il nous faut sans doute la modifier profondément. Ce qu'il nous faut, c'est plutôt arriver à une prospérité partagée, respectueuse. Donc partagée, ça veut dire socialement beaucoup plus inclusive, et partageuse et respectueuse, pardon, des limites. Des limites planétaires, il faut vraiment passer à autre chose.
On comprend bien que cette notion de croissance doit être encore largement repensée, et on a encore bien des émissions pour en discuter. Un grand merci à tous les trois, Xavier Tarbo, Olivier Martier et Jezabel Coupé-Soubéran, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, et cela malgré les problèmes techniques que peuvent créer la distance. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
c'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée avec Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Belchin. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Demain, nouvelle série consacrée à l'économie des villes et des champs. On reviendra sur le rêve pavillonnaire avec la sociologue Anne Lambert et le géographe Renaud Lebois. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.